Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente, à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage, Ratafia, R-A-T-A-F-I-A, par Alain Coudert, C-O-U-D-E-R-T. Édition Flammarion, collection Castor Poche Junior. ...1989... première cassette, première face. Hier il pleuvait, une pluie comme il n'en existe que sous les tropiques, violente et drue. En quelques minutes, les canaux des bords de la route et des chemins se remplissent, débordent et rendent les voies de circulation impraticables. Le paysage de cocotiers, si familier, se noie en quelques instants, disparaît. Dans ce cas, le plus souvent, les gens restent chez eux. Ils tournent un moment dans leur maison ou leur case, peu habitués à se retrouver entre ces murs. Alors, ils sortent boucher une fuite au dehors, rentrent à nouveau se mettre à l'abri, s'assoient et finissent par s'endormir, engourdi par la fraîcheur qui accompagne ces pluies. Les nuages, la grisaille me rendent plutôt actif. J'ai choisi de ranger de vieux papiers. En Europe, les gens aiment entreposer leurs souvenirs dans des greniers. Dans nos îles des Antilles, aux maisons basses, ces derniers n'existent pratiquement pas. Mais il y a toujours dans un coin de chambre un vieux coffre de marin. Généralement, ce sont les enfants à la recherche d'un trésor qui les ouvre. Au milieu de hardes à moitié moisies qui sentaient fort, j'ai retrouvé un manuscrit. La première page portait, calligraphiée, la véridique histoire de Ratafia, rat des îles, contée par lui-même et recueillie par Gilles de Lassoye, L-A-2-S-O-Y-E, aux îles, l'an de grâce, 1657. Gilles de Lassoye est l'un de mes ancêtres. Imaginez avec quelle avidité je déchiffrais les pages qu'il avait écrites 3 siècles auparavant. J'y retrouvais presque mot pour mot ce que je croyais n'être qu'un conte qui avait bercé mon enfance. Ratafia avait bel et bien existé. J'en avais la preuve sous les yeux. Le manuscrit était dans un piteux état. Je l'ai recopié aussi fidèlement que possible. J'en ai profité pour rajeunir certaines expressions de l'époque qui autrement seraient incompréhensibles pour nous aujourd'hui. Parfois, j'ai également dû deviner quelques lignes, car les poubois, ces petites bêtes qui mangent le papier dans nos îles, et surtout le temps, avaient mis à mal le papier et l'encre. Enfin, il manquait quelques pages. Voici le manuscrit. Quand je suis né, Ratafia était déjà un vieux, un très vieux rat. Son royaume se tenait sur la cime d'un cocotier. Il n'en descendait que pour chaparder ou en cas de cyclone. Il lui arrivait aussi de toucher terre quand il ne pouvait plus cueillir les fruits nouveaux sur les arbres. Des bateaux en avaient apporté les plans du reste du monde connu, ces arbres dont les îles s'enorgueillissaient. Il raffolait particulièrement des mangues. Il les dégustait sans toucher leur peau, suçant pulpe et jus par un tout petit trou qu'il pratiquait avec ses incisives proéminentes. Aucun animal, aucun humain non plus, n'avait jamais tenté de nuire à ce vieux rat. Chacun le respectait à sa façon et chacun le craignait. Il se risquait parfois jusque dans la cuisine de notre demeure et osait dévorer les reliefs d'un repas sous le nez de notre servante. Elle l'observait sans broncher, craintive. Un jour, je m'étais retrouvé seul dans l'habitation, comme oublié. Le gris bleuté du plomb était monté aux joues de la mer. Personne n'aimait ce signe annonciateur d'ouragan. Tous les bras disponibles s'activaient à consolider la case avant, le seul endroit construit pour résister à peu près sûrement aux forces du cyclone. esclaves noirs, engagés blancs, ce sont des serviteurs qui étaient presque traités comme des esclaves, libres de couleur et propriétaires blancs, s'affairaient autour de la petite baraque enterrée, la case avant, encordant, colmatant l'ultime refuge. Ratafia avait quitté son cocotier. Il déambulait dans la vaste pièce où je me trouvais assis par terre. Il s'approcha de moi, frotta son reste de poil contre ma paume, comme un chien à la recherche d'une caresse. Je ne bougeais pas. Je désirais, je ne savais pourquoi, qu'il reste. Je fus comblé. Il s'assit sur son derrière et me dévisagea de ses yeux rouges. J'avoue que je ne fus pas surpris de l'entendre me raconter l'histoire qui suit. Je l'ai transcrite des années plus tard, après l'avoir racontée des milliers de fois. J'avais peur que la vieillesse venant un jour ne m'envole les plus petits détails. Chapitre 1er. Il y avait une ferme dans l'ouest de la France où vivait une famille nombreuse. Elle était composée des parents et de nombreux enfants, mais aussi de grands-parents, d'oncles, de tantes et de cousins. La vie était rude pour ces paysans. Il suffisait d'une mauvaise récolte ou d'une brusque augmentation des impôts payés au clergé, aux seigneurs et aux rois pour que la famine s'abatte sur eux. Tous vivaient dans une seule pièce qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher selon les heures de la journée. L'hiver, le seul moment agréable était la veillée. Le soir, toute la famille se rassemblait autour de la vaste cheminée. Des voisins venaient parfois la rejoindre. Les hommes racontaient des histoires, échangeaient des nouvelles, tout en pelant des châtaignes, en tressant des paillons, en fabriquant des paniers ou des râteaux pour les prochaines fenaisons. Les femmes devisaient entre elles, en tissant des fils de lin ou en ravaudant. Les enfants se taisaient, écoutant. Pour économiser le bois de chauffage, la veillée se déroulait au milieu des bêtes, vaches et moutons mêlés. Leur chaleur tempérait l'étable mieux calfeutrée que la pièce principale, dont la cheminée laissait échapper l'air chaud avec la fumée. Quand aucun voisin n'y était convié, les décisions étaient prises à la veillée. L'aïeul de la famille décidait seul. Les autres, hommes ou femmes, petits ou grands, obéissaient. Pas une tâche de la ferme et des champs, pas un achat de sel, pas un mariage ni un baptême, rien qui ne passe par lui, comme tout passerait, après sa mort, par son fils aîné. À l'insu des paysans, vivait une autre famille, encore plus nombreuse et misérable, la famille Rat. Elle avait établi ses quartiers sous leurs pieds. L'hiver étant plus rude que jamais cette année-là, les rats avaient dû quitter leur pauvre cuisine glaciale aux pierres disjointes pour trouver refuge dans un trou nauséabond près de l'étable qui dispensait une maigre chaleur. Ce soir-là, il faisait plus triste que de coutume. La neige tombait en abondance et personne n'avait pu sortir de la journée. Aucun rat ne s'était glissé vers la cuisine des humains pour tenter de leur dérober quelques grains d'une nourriture bien rare à cette époque de l'année. Un frugal souper de paille souillée, pris entre les pattes des animaux, ne calma la faim de personne. Les tout-petits, l'estomac vide, ne se chemaillaient plus depuis longtemps. Tout le monde était tourné vers l'aïeul, attendant sa parole. Il se taisait. Ses moustaches frémissantes, ses yeux mi-clos, montraient qu'il réfléchissait. C'était un sage. Chacun avait confiance en ses décisions, même si parfois elles paraissaient dures. L'expérience avait prouvé la justesse de ses vues. Grand-père Rat était écouté et respecté. Sa voix sourde brisa enfin le lourd silence. Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Nous n'échapperons pas à la rudesse de l'hiver. Déjà, plusieurs d'entre nous ont disparu, les uns à cause de la faim, d'autres des suites d'une rencontre avec un humain, un chat ou un chien, en cherchant de la nourriture pour la famille. Chaque jour qui passe nous rend plus vulnérables. Mal nourris, nous aurons de plus en plus de mal à nous défendre des crocs des animaux des fourches et des sabots des humains. Notre logement ne convient pas non plus. Il est trop petit pour nous tous et trop loin des endroits de la maison où nous pouvons espérer trouver encore de quoi manger. « Grand-père, » demanda un jeune avec audace, « pourquoi n'allons-nous pas nous réfugier au grenier ? N'est-ce pas là qu'est entreposée la récolte de grains ?»« Hélas, » dit le grand-père, « tu es jeune et tu as encore bien des expériences à faire, mon petit. S'il y avait du grain dans le grenier, nous y aurions établi notre maisonnée depuis l'automne. Nous l'avons fait autrefois, mais cette année, la récolte a été mauvaise et l'imposition lourde. Les humains sont presque autant à plaindre que nous. J'en ai aperçu un l'autre jour qui fouillait la terre pour en sortir des racines et les dévorer, s'exclama un autre jeune. Oui, mais les racines elles-mêmes vont devenir rares. Pour nous aussi. La neige nous protège un peu pour le moment du froid intense qui viendra bientôt. Alors, ce sera terrible. Tous restèrent suspendus aux babines de l'aïeul, comme s'il allait annoncer la fin du monde. Après un instant, il poursuivit lentement, pesant chacune de ses paroles. J'ai donc pris une décision, une grave décision. Écoutez-moi. Dès demain, tous les jeunes garçons de chaque famille partiront. Seuls resteront, comme le veut la coutume, les aînés. Ces mots jetèrent la stupéfaction dans la famille. Le cœur des mères bondit. Elles serrèrent plus fort leurs petits qu'elles allaitaient encore. Père, pourquoi ne pas attendre quelques jours que le temps s'améliore ? Osa dire le plus vieux des enfants qui avait déjà lui-même une nombreuse famille à charge. Je comprends ton souci, mon fils, mais nous sommes à un moment de l'année où le temps ne peut qu'empirer. Après la neige, viendront les grands froids. Ensemble, nous ne pourrons que crever au fond de notre trou. Les jeunes, chacun de leur côté ou ensemble, comme ils le voudront, pourront mieux se débrouiller. De notre côté, nous attendrons plus facilement des jours meilleurs avec nos pauvres réserves ici. » Ayant dit cela, il se tourna vers le groupe des jeunes. « Vous pouvez me juger durement, c'est votre droit, mais il y va de la survie de notre famille. Votre départ vous autorise à fonder votre propre clan là où vous voudrez. Auparavant, je vous conseille de gagner des régions plus riches. Les vôtres n'y souffriront jamais de la misère que nous connaissons aujourd'hui. Allez, rassemblez vos affaires dès maintenant. Embrassez vos mères et vos pères. Vous partirez un peu avant le jour afin d'éviter le chien de la ferme. Vous passerez par le trou que nous avons creusé dans le mur du sud. » Chapitre 2. Ratafia était un fort rat noir. Malgré sa jeunesse, il s'était déjà fait remarquer par le clan à plusieurs reprises pour sa débrouillardise et son esprit inventif. Il avait franchi le mur d'enceinte de la ferme le premier, bien avant que les autres ne soient même éveillés. Pour ce voyage qu'il savait sans retour vers les siens, il avait mis ses meilleurs habits. Un pourpoint bleu, du plus bel effet, qui avait appartenu à son arrière-grand-père, le patriarche, des culottes de lin épaisses et des bas de laine. Il avait fourré ses sabots de paille fraîche, qui lui tenaient les pieds bien au chaud, et ainsi facilitait sa marche. Il portait une musette de toile grossière en bandoulière. Sa mère y avait glissé un morceau de fromage de chèvre séché qu'à l'insu du reste de la famille, elle gardait jalousement pour ses plus petits, un croûton de pain sec qu'elle avait dérobé dans la cuisine des humains et un flacon de grès plein à ras-bord d'eau de vie. Sur ses épaules, Ratafia avait jeté une peau d'agneau râpée. Pour compléter son accoutrement de voyageur, il s'était affublé d'un grand bâton ferré qu'il faisait résonner sur le sol glacé et qui pourrait à l'occasion lui servir à se défendre contre les bandits de grand chemin. Belettes, chats et chiens errants qui hantaient les sentiers de la région. En dépit des dangers qu'il encourait, il allait d'un pas décidé. Il prenait ce voyage comme une récompense et non comme une épreuve. Il voulait depuis longtemps mettre à profit les enseignements qu'il avait tirés des récits des anciens à la veillée. ceux qui l'avaient particulièrement écouté évoquaient de fabuleux pays au-delà de la mer. Le climat y paraissait toujours agréable et les rivières de lait et de miel. Pour s'y rendre, les rats embarquaient sur les bateaux des humains et entreprenaient de longs voyages pleins de risques. Très rares étaient ceux qui partaient. Plus rares encore, ceux qui revenaient et qui pouvaient raconter leurs aventures. Personne n'en avait connu, mais on rapportait dans la famille qu'un cousin lointain s'était installé à son retour dans un véritable château. Ratafia pensait que, puisque ces pays étaient fabuleux, il était normal que personne n'en revienne. Pourquoi risquer de terminer sa vie ici, entre les crocs d'un chien affamé, quand on a la chance de vivre là-bas, dans un pays où il n'y a jamais d'hiver et où les estomacs sont toujours contents? Ces images de paradis lui soutenaient si bien le moral que les lieux défilaient, une lieu, L-I-E-U-E, c'est 4 kilomètres, sans que la faim ait de prise sur lui. Le froid vif était son allié. Personne n'osait se risquer sur les chemins par un pareil temps. Les animaux, comme les hommes, restaient cloîtrés chez eux, vivant au ralenti, dans l'espoir de jours meilleurs. La mer apparut à Ratafia au matin du sixième jour. Elle était gelée tout le long de la côte, emprisonnant deux gros navires. Des marins descendaient de l'un d'eux par une corde. Ils gagnèrent le village à pied en chahutant. Dans le port, on avait cassé la glace pour ouvrir un sentier vers la mer. À bord d'une barque à rames, des marins s'affairaient à repousser à la gaffe les blocs de glace qui se formaient le long du chenal. La blancheur de la neige et la lumière rasante du soleil qui se levait donnaient au paysage un aspect féerique. Traversant le village encore silencieux en cette heure matinale, Ratafia arriva sans encombre au port. Hardiment, il se glissa sous une vieille porte vermoulue et se retrouva dans une pièce immense. Des tables et des bancs l'encombraient. Le sol était jonché de sciures sales. À l'odeur, et en voyant des gobelets et des pichets d'étain sur les tables, il comprit qu'il était dans une taverne fréquentée habituellement par des marins bruyants et toujours assoiffés. Les flammes claires d'un feu récemment ravivé égayaient l'endroit. Près de la bonne chaleur du foyer, Ratafia trouva tout de suite un trou dans lequel il se faufila. Une galerie ancienne menait à une chambre bien protégée dans le mur de pierre tiède. Une autre galerie débouchait directement derrière l'auberge, dans une petite cour où nul animal qu'affectionnent les humains ne semblait vivre. « Avant de me reposer ici, je vais voir si je peux trouver à me restaurer », se dit-il en déposant sa musette dans un coin de la chambre. La salle de la taverne était toujours déserte, pourtant le sol venait d'être balayé et une nouvelle couche de sciure, fraîche et odorante, épandue. Il explora rapidement les lieux. Déçu de ne rien trouver à se mettre sous les incisives, il s'apprêtait à regagner son trou quand il aperçut dans la cheminée une splendide carcasse de volaille souillée, mais encore pleine de bonne chair, juteuse et graisseuse à souhait. Il y a là de quoi me nourrir presque une semaine. Hélas, la proie convoitée se trouvait dangereusement proche du foyer. La chaleur fondait doucement la graisse qui suintait sous l'enveloppe de sciure et retombait en craquant sur les premières braises. En outre, elle était bien grosse pour pouvoir passer sans incident dans la galerie qui conduisait à la chambre. Brusquement, Ratafia ne réfléchit plus. Il s'élança dans la cheminée au risque de se griller le poil et, rapide comme un rat à l'estomac vide, se saisit de la carcasse brûlante, sauta au bas du foyer, se coula dessous, là où les humains mettaient une petite réserve de bois. Tout cela fit un grand bruit. Des bûches déséquilibrées s'effondrèrent dans un lumineux jaillissement d'étincelles. Ratafia ne sentit pas les multiples morsures de feu sur son poil. Dans sa frêle cachette, il savourait déjà à pleines dents la viande chaude. Je n'ai jamais mangé d'aussi bonne nourriture, pensait-il. Ah, je ne regrette pas d'être parti de la maison. Voilà un endroit merveilleux. Je vais m'y établir quelque temps en attendant le retour des beaux jours. Soudain, il s'arrêta de mastiquer et leva le nez inquiet. il devinait une présence. Il huma une odeur étrange. Elle émanait sans aucun doute d'un animal. Néanmoins, il n'en avait jamais perçu de semblable auparavant. Il ne pouvait s'agir en aucun cas d'un chien ou d'un chat à l'odeur facilement identifiable. Prudemment, il observa la salle, dissimulée derrière deux bûches. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Entre les pieds des bancs de l'auberge circulait, avec une vivacité incroyable, un animal à peu près de sa taille, qui ressemblait à une belette suceuse de sang. Se rappelant la légende de la genette blanche, G-E-N-E-T-E, que les anciens contaient à la veillée, il sut tout de suite que même si cette genette n'était pas blanche, il avait en face de lui un ennemi redoutable. La genette a un odorat plus développé encore que celui des rats. Elle peut se glisser sans bruit dans les trous les plus étroits et surprendre par sa vivacité des animaux bien plus gros qu'elle. En un coup de dent, elle saigne sa proie et s'abreuve de son sang. Voilà pourquoi je n'ai rencontré aucune famille de rats ici. Un tel paradis, c'était trop beau. Sans plus attendre, Ratafia se glissa avec difficulté jusqu'à la chambre. Son ventre rebondi frottait les pierres de la galerie. Il mit prestement dans sa musette le morceau de viande qu'il avait pris soin d'emporter dans sa gueule en guise de provision et emprunta le chemin qui conduisait au dehors.
« Je savais bien qu'il y avait quelqu'un !»
De ses petits yeux vifs, la jeunette observait Ratafia. S'il n'avait pas été un rat noir, on aurait pu le voir blêmir de peur. Assise sur son arrière-train, la jeunette semblait beaucoup s'amuser de sa frayeur. Elle poursuivit, très calme.
« Tu as laissé ton odeur dans les galeries que tu as empruntées. Je savais que tu finirais bien par sortir de l'autre côté. Il suffisait d'attendre et voilà. On m'appelle Zag, Z-A-G. » Et on dit que je suis aussi rapide que l'éclair. Qui es-tu, toi ?
La jeunette balançait sa queue, prête à se ruer sur lui. Elle pouvait saigner Ratafia promptement. Ses chances de s'en sortir, à lui, Ratafia, étaient minces. Zag méritait ce nom vif. La réputation de celle de son espèce était bien connue de tous les rats qui les redoutaient. Elle pactisait facilement avec les hommes. Et celle-ci semblait particulièrement bien nourrie de leur reste. Elle ne tuait donc pas pour manger, mais pour garder sa place bien au chaud à l'auberge, où elle liquidait toute présence animale inopportune.
« Attends !» s'exclama Ratafia. « Vois, je ne suis qu'un pauvre rat voyageur, là, et en quête d'un gîte où se reposer. Je viens d'un pays où la famine sévit. Mon sang n'est pas du meilleur, ma chair ne vaut rien. Si mon ventre est gros aujourd'hui, mon corps est maigre des privations que j'ai endurées. Pourquoi me tuerais-tu ?
Pour me débarrasser de toi.
Je partais, sachant qu'il n'y a pas de place pour nous deux ici. Cette auberge n'était pour moi de toute façon qu'une étape vers un long voyage, bien au-delà des mers, vers les pays de l'abondance éternelle.
Tu parles bien, rat. Tu dois également bien mentir.
Tu peux m'aider à partir ?
Moi, mais je vais te tuer, Ricanazag.
Ne préférerais-tu pas manger une belle volaille bien grasse, répondit Ratafia, plutôt que les quatre os d'un rat squelettique.
Si je vole quelque chose dans la cuisine des humains, je signe mon propre arrêt de mort. Le maître est féroce et avare. Alors qui me procurera ce mets délicieux ?
Moi.
Tu mens.
J'ai dérobé, reprit Ratafia, une carcasse au feu. Elle est tendre, encore chaude. Je l'ai cachée. Je te dis où je l'ai laissée et tu me laisses passer. Parole ?
Supposons que j'ai envie de te croire. Qu'est-ce que j'y gagne ?
Je pars et tu manges la viande.
Je la trouverai toute seule, cette viande, si elle existe.
Tu mettras du temps, elle sera froide et moins bonne. Pense au plaisir de sentir le jus chaud couler dans ta gorge.
Assez, tu as gagné, dit la jeunette. Je te laisse partir. Parole, tu me dis où est la carcasse Mais gare à toi si tu m'as menti. Je n'oublierai pas ton odeur et je te retrouverai où que tu ailles. Je connais toute cette ville et je suis connu de tous ses habitants, animaux et humains. Et en outre, je cours plus vite que toi.
Moins longtemps aussi. Laisse-moi passer maintenant. La jeunette s'écarta du chemin. Ratafia avança prudemment, surveillant du coin de l'œil les mouvements de son ennemi.
Un dernier renseignement avant que je parte. Toi qui vis parmi les humains de l'auberge, dit-il, n'as-tu point entendu parler d'un navire qui lèverait l'ancre pour ce monde nouveau dont on parle tant à la veillée ?
Si fait, le gros bateau qui est au milieu de la baie.
Il avait quitté son attache au port et attendait la marée quand la glace l'a encerclé.
Mais les marins savent se protéger des gens de ton espèce. Ils n'oublient pas que les tiens ont apporté autrefois de l'Orient les affreuses maladies comme la peste qui les ont décimés. De cela aussi les humains parlent à la veillée. Tu ne pourras pas monter à bord.
J'y arriverai, n'aie crainte, répondit Ratafia. Tu trouveras la carcasse sous la cheminée, au fond, derrière les bûches. Bon appétit et adieu.
Sans plus attendre, Ratafia s'éloigna, en marchant rapidement, de l'auberge et de son cruel gardien. Il emprunta une ruelle étroite et obscure, malgré le beau soleil qui brillait par-dessus les toits. Au bout de la rue, il se mit à courir aussi vite que ses petites pattes voulaient bien le porter, comme un dératé.
Chapitre 3. Ratafia s'éveilla douillettement enfoncé dans un chaud duvet et remis de ses émotions. Sur le môle, la digue, face à la mer, il avait trouvé refuge dans un trou au fond duquel les mouettes avaient abandonné un nid. Confortablement abrité du vent, en plein soleil, il avait dormi un long moment.
Quelle peur il avait eue, mais désormais il se sentait rassuré.
Zag ne me poursuivra pas jusqu'ici, même si elle a repris sa parole.
Pendant sa course folle, il avait suivi les recommandations de son père. Celui-ci conseillait toujours, en cas de fuite, d'emprunter le caniveau des eaux usées ou le ruisseau. Il avait aussi couru sur la neige dure, où le plus malin des chiens n'aurait pas trouvé de trace sans se geler instantanément la truffe, le bout de son museau. La baie qui s'offrait à son regard était toujours prise par les glaces. Le soleil déclinait, rougeoyant. Sa lumière incendiait les mâts des navires prisonniers. La glace était suffisamment épaisse pour qu'un étrange attelage puisse se risquer auprès d'eux. Un cheval tirant un char sans roues chargé de paille ou de foin. Un paysan, emmitouflé dans une large peau d'ours, le conduisait.
Tiens, 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 se dit Ratafia. Si on transporte du fourrage sur le bateau, cela signifie qu'il y a des animaux à bord. Voilà qui pourrait m'aider dans mes projets.
Tout de suite, il pensa que la présence de bêtes, telles que des moutons ou des vaches, lui permettrait de trouver plus facilement une cachette pour la traversée. Depuis son poste d'observation, il assista au chargement. Il se fit difficilement à l'aide de cordes et de poulies, et la nuit était tombée quand le travail s'acheva. Ratafia attendit encore si longtemps avant de se décider à quitter son abri pour gagner le bord, qu'il s'assoupit même un instant. Fin de la première piste de la première cassette, page 43, Alain Couder, Ratafia.